Cette fois, ça passe ou ça casse. Alors que la date de la rupture définitive avec l'Union européenne s'approche dangereusement, Boris Johnson compte se rendre à Bruxelles pour débloquer des négociations enlisées.
Je suis toujours optimiste, mais je dois être honnête avec vous. La situation en ce moment est délicate. Nos amis doivent comprendre que le Royaume-Uni a quitté l'UE pour pouvoir exercer un contrôle démocratique. Et nous en sommes encore loin.
Prochaine échéance, jeudi, avec un sommet européen bousculé par deux difficultés majeures. Le Brexit, mais aussi le blocage du plan de relance économique par la Pologne et la Hongrie. Accusés de ne pas respecter l'état de droit, les deux pays font front commun.
Nous allons rassembler nos arguments avec la Pologne et unir nos forces dans ce débat.
L'Union européenne traverse une période de turbulences et d'interrogations existentielles. Une fois entrée, un État peut-il vraiment en sortir? Si un pays s'écarte trop des valeurs communes, faut-il l'exclure? Et que faire des candidats qui continuent de frapper à la porte? L'an dernier, Emmanuel Macron n'avait pas caché ses réticences sur l'élargissement de l'Union.
Ça ne fonctionne pas très bien à 28, ça ne fonctionnera pas très bien à 27. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux quand on aura élargi.
Alors l'Union européenne a-t-elle grandi trop ou trop vite? Comment redonner un désir d'Europe à ses 446 millions de citoyens?
Je vous lis cette question. Un rétropédalage est-il envisageable si le Brexit s'avère un échec, Yves Bertoncini, si jamais les Britanniques voulaient revenir dans l'Union dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce qu'on aurait le droit de leur ouvrir la porte, de leur rouvrir la porte?
D'abord, puisque ce n'est pas l'Union soviétique, ils ont le droit d'en sortir. Si toutefois, ils n'ont pas réussi à refaire leur vie après ce divorce un peu coûteux, ils pourront toujours essayer effectivement de revenir.
Mais que disent les textes en fait? Est-ce qu'on peut sortir et revenir?
Ils ne disent rien parce qu'ils disent juste depuis une dizaine d'années qu'on a le droit de sortir.
D'accord.
Ça, c'est clair.
Ça n'avait pas été envisagé au début à la
création? Non, parce que c'est vrai que c'était cette idée d'union sans cesse plus étroite, à quelques-uns, on allait à la fois approfondir, faire plus de choses, le marché commun, la monnaie unique, et puis élargir. Voilà. Mais justement, au milieu des années 2000, il y a eu cette fameuse convention dirigée par Valéry Giscard d'Estaing, enfin au début des années 2000. Et la question s'est posée, pourquoi ne pas laisser une porte de sortie? Notamment parce que les pays d'Europe centrale et orientale qui allaient arriver, qui eux avaient eu l'expérience soviétique, c'est-à-dire de force dans l'Union soviétique, ont dit, nous on a envie d'entrer, mais où est donc la sortie?
Alors il y a eu un article qui a été ajouté.
L'article 50. Mais ce sont les Britanniques qui l'ont utilisé. Donc s'ils l'utilisent, ils l'ont utilisé, ils sortent. Si dans 5 ans, 10 ans, ils veulent revenir, pourquoi pas? Rappelons que quand ils sont entrés dans la communauté économique européenne, en 1973, ils ont fait un référendum d'appartenance seulement 2 ans après. Donc on est à l'abri d'aucune surprise avec eux.
Très bien. Et nous ne sommes pas à l'abri du chiffre du jour. Claude, avec vous.
Qui est un tic-tac, 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 donc un compte à rebours. 23 comme le nombre de jours avant le début de l'année prochaine. C'est le moment où tous les liens seront rompus entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Évidemment, c'est mal parti. Il faudrait qu'un document de 700 pages soit ratifié par le Parlement britannique et par le Parlement européen. Alexis Poulain, qu'est-ce que cette Union européenne qui résout toujours ses problèmes dans l'urgence, dans la crise? Est-ce que cela témoigne de ces blocages?
Oui, ça témoigne justement, ce que je disais avant l'émission, du manque finalement de volonté politique. Il y a un éléphant dans la pièce, dans la construction européenne, c'est le fédéralisme. On ne veut jamais en parler. Et pourtant, il est consubstantiel de la création européenne, si on veut toujours rapprocher les pays européens et arriver à quelque chose qui fonctionne. Et toutes les crises, les unes après les autres, crise migratoire, crise sanitaire, crise économique, ont montré la désorganisation et finalement le chacun pour soi, qui trouve bien l'expression parfaite dans le Brexit, en disant, bon, bah, puisqu'on en est là, arrêtons les frais et partons de cette union qui n'en est pas une.
Mais qu'on n'arrive même pas à négocier le Brexit.
C'est normal, parce que le Brexit, ça ne se négocie pas en quelques années, à la va-vite, sur un coin de table.
4 ans et demi, c'est rien. À la va-vite, 4 ans
c'est
et demi.
Rien pour des années de construction, de sandwich législatif, pour arriver à avoir ce marché commun, ces accords transfrontaliers, pour faire que ça fonctionne. Il a fallu 20 ans, 25 ans. 4 ans et demi, c'est rien. Donc c'est normal qu'on ne soit qu'au milieu du guet, mais quasiment on met un premier pied sur des marches, mais on est loin du Brexit. Donc on va effectivement signer un texte pour faire plaisir à tout le monde, pour dire qu'on a réussi quelque chose, et puis après on verra comment comment ça se passe quand les bateaux de pêche vont commencer à dire mais c'est des Anglais, qu'est-ce qu'ils font là? Bah, on n'en savait pas, vous avez signé un truc qui s'appelle le Brexit. Oui, mais, et là on verra quels seront les textes à ce moment-là et comment ça va s'incarner dans les faits.
Hubert Onsigny, il y a une autre crise qui guette l'Europe, d'ailleurs on est en plein dedans et on doit en discuter jeudi. Le plan de relance européen est bloqué par deux pays, la Hongrie et la Pologne, qui n'admettent pas que l'Union européenne veut leur imposer des règles sur l'état de droit en échange d'argent, en échange d'aide financière. Qu'est-ce que cette Union européenne qui conditionne une évidence, la solidarité économique, à des diktats politiques?
Ouais, des conditions politiques, à des exigences. Quand on entre dans l'Union européenne, on
prenait délibérément le point de vue des Hongrois et des Polonais. Eux considèrent que l'Union européenne empiète sur leur souveraineté.
On s'engage, quand on entre dans l'Union européenne, à respecter l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme, les minorités. C'est une condition pour y rentrer. Simplement, autant on a prévu une porte de sortie que les Britanniques ont empruntée, autant on n'a pas prévu de procédure d'expulsion. On ne peut pas expulser un État qui s'écarte de cet état de droit, de cette démocratie. Il y a une procédure, les articles 6 et 7, qui peut le sanctionner. Sauf que pour sanctionner ces États, il faut l'unanimité. Donc, sauf celui qui est concerné. Il suffit qu'il y en ait un autre qui le protège, et la Pologne et la Hongrie s'autoprotègent en ce moment. Donc on essaie d'une autre manière, puisque cette procédure n'existe pas, on essaye par la conditionnalité financière. Moi, pour ma part, je pense qu'il aurait fallu faire des sanctions diplomatiques bilatérales, qu'il y a beaucoup de ménage à faire à l'intérieur des partis européens. Monsieur Orban est toujours membre de la grande famille des conservateurs d'Angela Merkel, c'est étrange, qu'il y avait des façons de les ramener à la raison avec la Cour de justice, ils ont d'ailleurs été condamnés plusieurs fois. On a choisi de miser sur la conditionnalité financière, c'est-à-dire tu fais ça ou tu n'auras pas l'argent. Eh bien oui, en effet, je ne leur donne pas raison, mais ils bloquent. Et donc c'est une crise de copropriétaires. De plus, il y en a eu d'autres. Simplement, la grande différence avec le Brexit, c'est qu'ils ne veulent absolument pas s'en aller. Ils restent là. On ne peut pas les expulser. La trêve hivernale dure toute l'année dans l'Union européenne. Il va donc falloir faire avec. Il y aura un compromis, je crois, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, y compris parce qu'ils ont besoin de cet argent.
Et parce que c'est un rapport de force qui ne pourra pas durer éternellement.
Ils redésignent leur pays comme des démocraties illibérales. Et maintenant, ils commencent aussi d'essayer de redéfinir aussi les valeurs européennes. Il faut vraiment faire attention là, parce que si maintenant on ne reste pas ferme, les autres 25 pays membres, on va changer l'Union européenne.
Alexis Poulain, est-ce que l'Union européenne, telle qu'on l'a connue, est suffisamment solide pour intégrer des divergences politiques très violentes, très profondes? On n'est plus dans le gentil affrontement des sociaux-démocrates, des chrétiens-démocrates, mais à l'intérieur de chaque pays dans l'Union, il y a des gens résolument illibéraux et des gens résolument libéraux. Comment gère-t-on ça?
On le gère mal, justement, avec ce principe d'expulsion, de sanctions, sans savoir finalement quel est le projet politique de l'Europe. Parce que oui, on est d'accord, les droits de l'homme, le respect des minorités, une certaine ouverture, une société libérale, ouverte, la concurrence
séparation
librement faussée,
des pouvoirs.
La séparation des pouvoirs. Mais même des pays comme la France, qui était quand même phare de la liberté au niveau mondial, est maintenant pointé du doigt par les partenaires européens, en disant vous êtes dans une dérive illibérale également.
Est-ce que c'est du même niveau ce qui s'est
fait? C'est du même niveau, oui, les lois
avec les migrants, par exemple, mais ou les droits des femmes en Pologne.
Ce qui s'est passé place de la République, on n'est pas loin. Il y a eu des croche-pieds aux migrants. On n'est pas loin. Après, que ces pays-là choisissent politiquement, évidemment, ça, en disant, nous, on choisit d'être comme ça, et on choisit que les valeurs européennes soient d'abord la chrétienté, une Europe blanche, les racines, ça, c'est effectivement un autre débat, mais important, parce qu'il traverse toutes les sociétés européennes. Et il y a, et c'est ce qui fait le Brexit aussi. À la base, c'est la crise migratoire qui fait le Brexit. Et cette crise migratoire, parce que non gérée, parce que gérée dans l'urgence, parce que finalement chacun a joué le chacun pour soi. Quand à l'époque c'était Jean-Claude Juncker, essayait de faire que les États européens accueillent tous à hauteur de ce qu'ils
peuvent. Et ne laisse pas l'Italie en première ligne.
Chacun a joué personnellement, la France en premier d'ailleurs. Donc on n'a pas résolu ces problèmes-là, ils ressortent aujourd'hui sur la table et il n'y a pas de solution politique, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, il n'y a pas les outils politiques, démocratiques, européens pour résoudre.
Quels seraient ces outils?
Ce seraient des parlements qui se parlent, des parlements nationaux qui arriveraient à se parler, ce seraient des votes, ce seraient des référendums européens. La société civile européenne, est-ce qu'elle est capable d'exister au niveau européen ou bien est-ce que c'est un agrégat de société civile nationale?
Yves Bertoncini, il faut admettre la légitimité des courants illibéraux. Si la France, lors de la prochaine présidentielle, se donne à Mme Le Pen, est-ce que vous souhaiteriez, pour votre propre pays, ce que vous souhaitez actuellement à la Pologne ou à la Hongrie? C'est-à-dire des sanctions, des duretés.
Il y a d'ailleurs, la première fois, la Commission a fait un rapport sur l'état de droit dans tous les pays membres. Justement, pour ne pas stigmatiser la Pologne et la Hongrie, Mme von der Leyen a dit on va faire pour tous les États membres. Donc on surveille ce qui se passe. Et donc, oui, moi je souhaite qu'il n'y ait aucune dérive nulle part et que si jamais il y en a, puisque ça n'est pas conforme.
Est-ce que ça interdit l'alternance politique? Comment une construction démocratique comme l'Union européenne peut-elle s'opposer au choix démocratique des peuples, quand bien même
souverain,
vous lui plairait?
Elle ne s'y oppose pas. Regardez, là, l'extrême droite est arrivée au pouvoir dans la coalition en Autriche. Il y a de l'extrême droite d'ailleurs en France, mais aussi au Parlement européen. Il n'y a pas d'opposition. Simplement, à partir du moment où on fait partie d'une communauté politique, il faut respecter certains principes de base. Et donc, il y a des modalités pour obtenir cette...
A fortiori, si on demande des subventions.
Regardez, par exemple, dès la première fois, alors maintenant, on en est loin, mais la première fois que les Autrichiens se sont donnés à l'extrême droite, M. Haider, à la fin des années 90, on avait à l'époque, alors qu'il n'était même pas membre du gouvernement, et alors même que le gouvernement du conservateur Schussel n'avait même pas commencé à gouverner, on avait fait des sanctions bilatérales. M. Chirac avait dit, on ne parle plus aux Autrichiens. Il y avait eu des sanctions diplomatiques, bilatérales. Emmanuel Macron, il reçoit M. Orban en grande pompe à l'Élysée. C'est une autre façon de procéder. Et on met tout sur le budget communautaire. Il y a d'autres façons d'amener ces pays à la raison que le chantage financier, même si, évidemment, ça leur parle, parce que, n'étant pas partants, ils ont besoin de ces fonds. Mais ils ne sont pas que dans un débat matérialiste. Ils sont dans un débat identitaire, un affrontement de valeurs qu'il faut assumer comme tel.
Alexis Poulain, d'abord, a-t-on élargi trop vite? D'autre part, quatre pays des Balkans, dont la Macédoine, le Monténégro et l'Albanie, demandent à entrer, et la Serbie, ça fait quatre, demandent à entrer dans l'Europe. Oui, que dit-on 31. À ces pays?
Mais c'est tout le problème du projet européen. On demande aujourd'hui, dans toutes les sociétés européennes, on demande de la clarté, on demande un cap politique, on demande de savoir où on va. Et l'incertitude, vous n'avez pas échappé, elle a augmenté avec cette crise sanitaire du Covid. Et ça n'a fait qu'empirer. Or, l'Europe continue finalement sur un projet qui semble être dans une dystopie gentille, mais qui ne prend plus en compte les crises successives. Alors, vaguement, la crise écologique. On a quelques objectifs écologiques, mais c'est rien par rapport aux enjeux. Mais sur la crise sanitaire, la prérogative sanitaire n'était pas celle de l'Europe. Sur la crise migratoire, j'en parlais, on a répondu trop tard. Et sur la question de l'élargissement, on continue sur une logique de marché unique, c'est-à-dire que ce projet économique qui était louable à un certain moment... paraît extrêmement anachronique quand on voit l'appétit des empires américains et chinois. Aujourd'hui, l'heure est au protectionnisme, l'heure est aux champions industriels nationaux. Or, que fait l'Europe? Elle veut que la France démantèle EDF pour la concurrence libre et non faussée. C'est aller à contresens de l'histoire.
Mais vous n'avez pas répondu à la question sur l'accueil ou non de ces quatre pays.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir un cap pour ces pays-là qui veulent rejoindre l'Europe, mais qu'ils ne se fassent pas pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire des sous. Non, c'est un projet de communauté, de territoire, c'est-à-dire que l'Europe, c'est un continent. Derrière, il y a des frontières, il y a effectivement comment on va organiser ces sociétés ensemble. C'est pas simplement prendre de l'argent pour développer son économie et son industrie.
Il est frappant de voir sont plutôt des pays pauvres qui viennent toquer à la porte de l'Europe, alors que la Suisse, par exemple, n'y a jamais songé. Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'échec, la Norvège qui a refusé, est-ce que ce n'est pas ça l'échec du projet européen? C'est qu'à un moment donné, ce n'est plus qu'une banque, un fonds d'aide à des pays qui arrivent moins bien que les autres.
Les pays dont vous parlez, d'abord l'Autriche, la Finlande, la Suède, nous ont rejoints après la guerre froide. C'était des pays riches. Les autres, c'est tous des pays ex-soviétiques, donc effectivement, qui sont en retard de développement.
Et là maintenant, on parle des Balkans. On n'est pas dans l'adhésion.
Des pays ex-soviétiques, donc ils ont été effectivement affectés par leur histoire, qui n'est pas la même que l'histoire de l'Europe occidentale.
Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas rêver d'autres pays? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas rêver
la Norvège? Pourquoi l'Islande?
La Norvège était dans une logique d'optimisation, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il y a eu deux référendums qui ont été perdus de justesse. Comme d'ailleurs le Brexit, 52-48. Effectivement, alors l'Union européenne n'a pas apporté, d'ailleurs non plus au Royaume-Uni, l'état de droit, la démocratie, la prospérité. C'était des pays qui avaient déjà ça. La Norvège l'a déjà. Alors que c'est beaucoup plus motivant pour les pays ex-soviétiques, puis aussi avant eux les dictatures du sud de l'Europe, de rejoindre la famille européenne. Parce que ça rimait, et ça rime toujours avec démocratie, état de droit, prospérité, libre-échange. Simplement, ça ne suffit peut-être pas, et surtout maintenant, ce qui va nous donner un cap, ce qui nous donne un cap, Alexis a mentionné la transition écologique, c'est de regarder le monde. Parce que quand on regarde la Chine et les États-Unis, ce qui donne un sens à cette union, c'est que l'union fait la force. Pardon, c'est trivial. Nous ne sommes plus avec le Brésil que moins de 6% de la population mondiale, et bientôt 5%. Qui parle à la